marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il est certain qu'il faut un regard historique pour comprendre le temps présent.
Je suis prêt à écrire sous votre dictée.
Les cahiers de doléances, les Français prennent la parole.
Sa Majesté souhaite connaître les doléances de ses peuples, de manière qu'il soit apporté le plus promptement possible un remède efficace aux maux de l'État, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens. À ces causes, Sa Majesté désire que s'assemblent dans ses villes et villages, et dans le plus bref temps, les habitants pour conférer ensemble tant des remontrances, plaintes et doléances que des moyens et avis qu'ils auront à proposer.
La grande consultation que veut lancer Emmanuel Macron devrait durer le temps qu'il fallut, entre mars et mai 1789, pour rédiger les cahiers de doléances. À l'époque, il n'existait pas de commission nationale du débat public, vous savez, cette structure contemporaine que le président songe aujourd'hui à utiliser dans tous les sens du terme. On était encore dans une société divisée entre trois ordres. Chacun rédigeait ses cahiers de son côté. Ceux du tiers l'étaient d'abord dans des paroisses, avant de faire l'objet de synthèses. Un peu comme les cahiers de ce mois, lancés par les maires ruraux et qui ont de suite rencontré le succès. Il est vrai que les cahiers relèvent d'une tradition française bien ancrée et encore monarchique à bien des égards. Un sur deux, en 1789, se félicitait d'ailleurs du rôle que pouvait jouer un bon roi, père du peuple. Changement de registre. Ces jours-ci, une revendication s'est faite jour qui a réussi à fédérer des gilets jaunes divisés sur le reste. Une banderole devant l'Opéra Garnier l'a résumé bien. Référendum abrogatoire, révocatoire, législatif, constitutif, on exige, on impose. Nous voilà projetés, là, tout soudain, de 89 à 93. La Constitution du 24 juin 1793 rendait en effet possible une manière de référendum d'initiative citoyenne qui pouvait renvoyer les lois votées à l'Assemblée devant le peuple. Cette Constitution, qui n'a jamais été appliquée, demeure comme un fantôme dans l'imaginaire français. Il est à noter qu'elle avait été promulguée juste après que les sans-culottes avaient envahi l'Assemblée et obtenu la déchéance des députés girondins. Démocratie participative à la manière de 89, démocratie immédiate et tranchante comme en 93, on ne voit pas bien comment la démarche de la grande consultation et celle du référendum d'initiative citoyenne pourront se rejoindre, à moins qu'Emmanuel Macron, à l'issue de la consultation, si elle va jusqu'à son terme, ne propose pour en rassembler quelques propositions un référendum d'initiative présidentielle.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Michel Biard, bonjour.
Bonjour.
Je vais vous faire un petit effort biographique. Avant de devenir professeur à l'université de Rouen, de publier nombre de livres sur la Révolution française, qu'est-ce que vous faisiez au moment du bicentenaire? Vous vous intéressiez déjà à la Révolution?
Oui, bien sûr. En 1989, j'étais enseignant dans le secondaire, donc dans un lycée. Et effectivement, je m'intéressais déjà à la Révolution, puisque j'allais commencer une thèse avec Michel Vauvel.
Sur Collot d'Herbois, un personnage tout à fait étonnant, qui était à la fois acteur, auteur de théâtre et homme politique.
Voilà, ouais. Homme de théâtre et homme politique, effectivement.
Vous n'avez pas eu l'idée qu'a eu Madame Reboul, dont on suit ici les élèves, au collège de l'îlot Saint-Blaise, devenu, je crois, Flora Tristan, à Paris, de faire rédiger par ses troupes des cahiers de doléances.
Dans ce cahier de doléances, excuse-moi, il y a charge, je vais donner la parole dans un instant, chapitre numéro 3, les professeurs doivent être plus pédagogues, nous voulons avoir plus de confiance et de respect de leur part, et qu'ils ne fassent surtout pas de propagande politique, car nous avons, pour certains d'entre nous, déjà nos propres idées politiques. Les professeurs ne doivent ni boire ni fumer pendant les cours.
Oui, parce qu'il y a certains professeurs qui fument pendant les cours. Et c'est quand même assez gênant pour nous.
Que les professeurs, et ça c'est assez savoureux, que les professeurs qui sont en retard aient une heure de colle ou une retenue sur leur paye.
Enfin, qu'il y a oui, il y a des abus. Parce que nous, quand on est en retard, on est collé. Oui. Tandis que les professeurs, quand ils sont en retard, on ne leur dit rien.
Il faut quand même qu'il y ait des privilèges. Parce que les cahiers de doléances, les vrais, ceux de 88, 89, ils mettaient surtout en cause des phénomènes qui touchaient à de l'arbitraire.
Il n'y a plus qu'il y ait de privilèges, trop de privilèges. Il y en a trop aujourd'hui.
Il en faut quelques-uns.
Il y en a trop.
Il en faut quelques-uns, parce que sinon, quand vous serez vous adulte, Quand vous serez-vous adulte, quel intérêt de grandir s'il n'y avait pas quelques privilèges à être professeur?
Mais pourquoi des privilèges? Pourquoi des privilèges?
Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas égaux?
Oui.
Oui.
C'est drôle. Souvenez-vous de vos collèges, lycées, Calais, Béthune, où vous enseignez. Les parents, ils attendent souvent la neutralité politique des professeurs d'histoire, mais les élèves, ils disent, faut pas que les professeurs fassent de la politique parce qu'on a déjà nos idées. On a déjà nos idées. Hein.
Oui, c'est intéressant, surtout si c'est du niveau du collège, effectivement.
Alors, revenons aux cahiers de doléances, qui servent d'ailleurs, je crois, de matériel pédagogique dans nombre de classes encore, grâce aux efforts de reproduction, de présentation pédagogique que font nombre d'archives départementales sur le sujet. Nous sommes en 89, c'est pas une nouveauté aujourd'hui, en 2018, les cahiers de doléances, c'était pas vraiment une nouveauté en 1789, encore que l'exercice était un peu rouillé.
Oui, absolument. Les premiers états généraux, donc, qui sont liés au cahier de doléances, évidemment, datent de 1302. Hein, donc, on est au tout début du XIVe siècle. Et par ailleurs, les cahiers de doléances sont aussi rédigés parfois par des états provinciaux, mais aussi, par exemple, par l'Assemblée générale du clergé. Donc, ça n'est pas propre aux états généraux. Et ce qui est nouveau, entre guillemets, en 1789, c'est que les derniers états généraux remontent à 1614-1615. Donc, ça fait la bagatelle de 175 ans. Et donc, ça apparaît un peu comme une vieillerie.
On n'abolit pas la société d'ordre, ça veut dire que le clergé peut rédiger ses cahiers de doléances, la noblesse peut rédiger ses cahiers de doléances. Je mets ces deux ordres à part, d'abord parce que ce sont les ordres jugés supérieurs, et puis parce qu'ils sont moins nombreux et que ça peut se faire en deux coups de cuillère à peau, enfin d'un coup en tout cas.
Bien sûr, chacun des trois ordres s'assemble et rédige ses cahiers par bailliage ou sénéchaussée, qui est une des circonscriptions de l'époque. Simplement pour la noblesse et le clergé, en raison du nombre que vous évoquiez, le rapport est direct entre cette réunion et l'envoi des députés à Versailles, alors que c'est infiniment plus compliqué pour le tiers état.
C'est intéressant, les cahiers du clergé, on les observe peut-être pas assez, on voit pas mal de prêtres être mécontents de devoir donner à la messe des coups d'encensoir au Seigneur, ou même être mécontents de la jeunesse ou de l'incompétence de leurs évêques.
Oui, tout à fait. Les cahiers du clergé, effectivement, sont importants en matière de ce qu'ils disent de la religion. Bon, certains protestent, par exemple, contre l'édit qui a accordé en 1787 l'état civil aux protestants. D'autres sont liés à des protestations qui viennent plutôt de l'influence janséniste, par exemple. Mais globalement, les cahiers du clergé peuvent eux aussi, par exemple, réclamer la réunion régulière des états généraux.
Les cahiers de la noblesse, parfois, sont proches de l'esprit de la bourgeoisie. Il y avait des nobles réformateurs.
Alors moi je dirais libéraux plutôt que réformateurs, et effectivement la noblesse, certains de ces cahiers sont très libéraux, et notamment dans les provinces influencées par les gens qui sont liés au duc d'Orléans par exemple, et d'autres sont au contraire beaucoup plus timides, plus conservateurs pourrait-on dire.
Allez, on va dire libéraux. On va citer un nom d'aristocrate d'aujourd'hui, Jean-Dominique de La Rochefoucauld. C'était le scénariste d'un film, 1788, réalisé par un vieux réalisateur communiste, Maurice Felvic. Drôle d'association. Alors, nous sommes chez un laboureur, un paysan assez bien doté, qui a réussi à envoyer son fils à la ville. Il est devenu le fils, un notable de Chinon. Et le voilà qui revient chez son père au moment de la rédaction, et il est porteur d'un modèle, d'un livre type qui a été rédigé par les Robins, les notaires, les bourgeois de la région.
J'ai apporté les cahiers du tiers qu'on a rédigés à Chinon pour servir de modèle à toutes les paroisses du bailliage.
Ah, et vous y parlez de la terre et de nous autres dans vos cahiers, là?
Titre 5 de l'agriculture. Que tous les droits seigneuriaux, insolites, soient rachetables.
Relis voir un peu le début pour voir.
Que tous les droits seigneuriaux, insolites.
Insolites, c'est pas insolite qu'il faut dire, c'est injuste. Et s'ils sont injustes, faudrait-il les racheter? Et qui qu'en estimera le prix? Si c'est nous autres, pour sûr qu'ils pèseront pas lourd, mais si c'est le compte, tout continuera comme par devant.
Justement, mon père, il faut une loi, la même pour tous. On ne peut pas céder à l'intérêt des uns ou des autres.
Mais il faudra bien qu'elle tranche, cette loi. Je ne suis pas instruit comme toi, Guillaume, mais le monde est un bon livre. Quelqu'un a encore décrit sur les paysans dans tes papiers?
Mais mon père, on ne peut pas parler que des paysans. On parle de tout dans nos cahiers.
Je suis pas instruit comme toi, mais j'ai vu le monde, celui que j'observe depuis mon champ. Le modèle, on en fait un usage qui peut être libre.
Bien sûr. Alors, ces cahiers modèles ont circulé beaucoup parmi le tiers état, les cahiers qu'on appelle les cahiers patriotes. Et ces cahiers modèles ont parfois effectivement été contestés. Et on a dans certaines provinces des suppléments au cahier de doléances. C'est-à-dire que le cahier se termine et ensuite il y a un supplément infiniment plus revendicatif, notamment sur la question seigneuriale, où il y a parfois carrément une scission de l'Assemblée et un deuxième cahier qui est rédigé, qui n'a rien à voir avec le premier. Mais ça, c'est vraiment propre à des campagnes où il y a des affrontements déjà assez importants.
Vous parlez d'assemblée. Alors, qui vient aux assemblées? Qui a le droit d'y participer?
Alors, ont le droit de participer aux assemblées de base, donc qui se font par communauté d'habitants, et non par paroisse, puisqu'il peut y avoir plusieurs communautés pour une même paroisse, et inversement, viennent les hommes, donc uniquement les hommes, de 25 ans et plus, qui sont inscrits sur les rôles d'imposition, mais ce nonobstant, on voit dans les archives que des femmes, par exemple, participent, notamment parce qu'elles sont chefs de foyer, elles sont veuves et chefs de foyer, donc elles participent, et on voit également que des indigents participent.
Ah bon?
Alors qu'ils ne devraient pas être là en principe.
Oui, rôle d'imposition. Ça devrait exclure les gueux, les vagabonds, peut-être même les bras nus.
Comme bien sûr, disait. Sauf que dans les archives, on voit que ponctuellement, il y a aussi des participations de gens qui sont classés comme indigents. Et on estime la participation entre un tiers et la moitié des chefs de foyer, de famille, si vous préférez. Maintenant, c'est une moyenne qui ne veut pas dire grand-chose. Dans un bailliage comme celui de Bailleul, dans le nord de la France, l'actuel département du Nord, entre deux circonscriptions voisines à l'intérieur du bailliage, deux communautés, ça va de 10% de participation à peine à 100%.
Ça dépend aussi du statut des paysans.
Bien entendu, il est évident que dans des communautés villageoises qui sont plus clivées socialement, on peut avoir des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ne viennent jamais aux assemblées. Je pense notamment à des assemblées de métayers dans le sud-ouest, où on peut avoir évidemment l'influence du très gros fermier, qui est celui qui emploie, celui qui a l'argent, celui qui a la capacité et qui va dominer l'assemblée, bien sûr.
On a eu raison de parler longuement des paysans, comme le recommandait le laboureur, le père de Guillaume. Mais revenons au film de Feuillevic et La Rochefoucauld. Alors, l'unité électorale, c'est le bailliage et la sénéchaussée. C'est là que, au chef-lieu, vont se faire la synthèse des cahiers et l'élection des députés aux États généraux. Députés, c'est pas des représentants, c'est des mandataires de leur ordre, du tiers,
non,
en l'occurrence.
Non, ils sont députés. Ils sont
oui,
députés.
Oui, mais le mot n'a pas le même sens que nous, qu'aujourd'hui.
Bien entendu. Ça n'est pas la notion de représentation et il n'y a évidemment pas encore ce qui est le cas aujourd'hui, la notion de représentation de la nation.
Guillaume, le fils du laboureur, va être élu à Chinon. Et voici le récit que fait de la séance un vieil ami du vieux laboureur qui rentre du chef-lieu.
Je suis prêt à écrire sous votre dictée.
Tu peux déjà mettre que Maître Brissot ne devrait pas être juge quand il nous attaque.
De toute façon, il n'y a point de loi, c'est le château qui décide.
Pour nous, il n'y a pas lieu de faire un procès.
Le comte nous prend ses voix. Nous, par exemple, avant, on prend le roi. On les prend le roi.
Mes amis,
faut dire au roi comment les gars butent.
Mes amis, s'il vous plaît, attendez. S'il vous plaît, mes amis.
Si vous parlez tous en même temps, je ne peux rien écrire.
J'ai bien la tête qui bourdonne corps d'en avoir tant entendu, ça. Pendant ces quatre jours, ça a parlé. Et ça parlait, et ça criait, et tous en même temps. Le président, sur l'estrade, il agitait bien sa cloche pour les faire taire un peu, mais autant vouloir arrêter une rivière qui déborde, pire qu'à la foire de la Saint-Jean.
Il y avait tant de monde que ça.
On était peut-être bien 300-400 là-dedans. C'est qu'il y avait les députés de 84 paroisses qui étaient représentés, plus tous les métiers de Chinon. Et puis il y avait tous les messieurs de Chinon. Le président de bailliage, les échevins, on était tout mêlés. Moi, comme voisin, j'avais un monsieur avec une belle bedaine, une chemise à rabat de dentelle, perruque et une grosse bague. Et avec tout ça, bien simple et bien causant.
Ah, une concertation qui met ensemble le bourgeois bien simple et bien causant et le paysan émerveillé de se retrouver à cette place. L'idée du peuple dont le père serait le souverain, une fois sur deux, le souverain est cité dans les cahiers et toujours de manière positive. Encore que ça ne veut pas dire qu'il soit toujours perçu comme une personne sacrée.
sacré au sens du sacre, si, mais en revanche, lui rendre hommage, voilà, lui rendre hommage ou non, effectivement, un travail, une thèse de Philippe Grateau paru au début de ce siècle a montré que pas mal de cahiers, effectivement, oubliaient cet hommage et que ce n'était pas anodin.
Et que c'était une sorte de réciprocité qui devait s'établir entre le souverain et le peuple.
Tout à fait.
On ne voit pas souvent, dit Philippe Grateau, dans cette thèse, apparaître le nom des philosophes. Il a vu une fois le nom de Montesquieu. Des idées des Lumières, telles qu'elles sont constituées, par exemple, dans les dictionnaires, ou en tout cas dans notre esprit. Vous avez eu d'ailleurs la curiosité de chercher, dans le dictionnaire de Furtière, le mot doléance. Et les renvois qu'il implique sont bien intéressants.
Oui, le dictionnaire du Furtière, donc, qui paraît à la fin du XVIIe siècle, juste avant celui de l'Académie, au mot doléance, explique simplement plainte, et il faut aller chercher évidemment le sens du mot plainte, et voilà ce qu'il dit. Se dit aussi à l'égard des peuples qui souffrent quelque oppression, qui en font des remontrances au roi, et voilà l'exemple qu'il ajoute, les cahiers des États contiennent les plaintes et doléances du peuple, des peuples qui en demandent justice. Et je crois que là, le mot justice est important parce que ça signifie qu'on est face à quelque chose qui est du domaine de l'idée d'un ordre juste qui, à un moment donné, peut être mis en danger par des choses qui paraissent injustes. Et je crois qu'on est en pleine actualité de ce point de vue-là.
Philippe Grateau dit, il n'y a rien sur la vie privée des souverains, il n'y a aucun écho de la littérature pamphlétaire, ordurière sur la vie privée de la famille des souverains. Là aussi, on est en pleine actualité.
Oui, mais ça, c'est parfaitement logique. À partir du moment où ce sont des cahiers de doléances, il s'agit de demander quelque chose, hein, avec cet emploi du subjonctif qui est omniprésent, que, etc., soit, hein, que les droits soient abolis, que les droits soient changés, etc. Et il n'y a pas de raison de faire une doléance sur la vie sexuelle prêtée, par exemple, à Marie-Antoinette. Ça n'aurait pas de sens.
Et le langage, si on fait une étude culturelle?
Alors, le langage, effectivement, est un langage tout à fait significatif. Par exemple, selon que l'on oppose la figure du seigneur à la figure du roi, on ne va pas avoir la même image, on ne va par exemple pas avoir les mêmes verbes. Le seigneur va opprimer, le seigneur va asservir, le seigneur va exiger, le seigneur va usurper. Là où pour le roi, on va avoir le roi dont on espère la protection, le roi supprimera. On n'a pas du tout les mêmes verbes qui sont utilisés. Donc il y a deux images à l'opposé l'une de l'autre.
Alors, je ne sais pas si les échos qui sont donnés du mouvement des ronds-points sont tous suffisamment riches, mais on n'a quand même pas l'impression qu'il y ait beaucoup de joyeuseté langagière. Il y a une certaine standardisation du langage aujourd'hui, tandis qu'on en repère beaucoup des joyeusetés dans les cahiers de doléances.
Autre époque, autre langage, hein, c'est évident. Ce nonobstant, il me semble intéressant de voir comment dans ce mouvement dit des Gilets jaunes, les héritages de la Révolution française qu'on aurait pu croire perdus peut-être, ressurgissent dans des slogans, dans des choses qui sont écrites sur les gilets, voire dans une guillotine qu'on construit en carton-pâte sur un rond-point, puisque certaines l'ont été.
Mais il manque peut-être l'horizon de bonheur. Le bonheur relève du possible en 1789.
Oui, ça, je ne sais pas si dans les cahiers de doléances, on va voir l'horizon qui relève du bonheur.
Philippe Grateau dit simplement la demande d'échange, la demande de route, la demande de désenclavement, c'est une manière de recherche d'un horizon nouveau, prometteur.
Bien sûr, en un sens, oui. Mais je crois que les choses sont parfois beaucoup plus terre-à-terre. Alors, sauf dans des cahiers qu'on pourrait qualifier de cahiers éclairés ou de ce qu'on a appelé autrefois de cahiers à haut niveau de rationalité. Ceux où, par exemple, on commence à parler de nation au lieu de peuple, à parler de citoyen au lieu de sujet. Et vous voyez que de glissement en glissement de vocabulaire, on peut aller très loin. Parce que si on parle de nation et qu'on dit que les États généraux, c'est la nation qui est assemblée, ben, il suffit d'inverser les deux termes pour avoir une assemblée nationale. Donc là, on est effectivement dans tout autre chose qu'une simple doléance de base dans une communauté villageoise.
C'est intéressant votre idée de cahier à haute rationalité. Le mot, vous le reprenez à Régine Robin qui avait étudié ce mur en soie en Bourgogne. Ça veut dire qu'il y a une intelligence du peuple.
Oui, mais je crois que c'est aussi la manière dont la petite monnaie, qu'on pourrait appeler comme ça, la petite monnaie des Lumières, a fini par pénétrer jusqu'au fin fond du territoire.
Alors nous sommes encore au temps du cahier des doléances à bien des égards, en témoigne ce qui s'est passé, ce qui se passe encore dans de nombreuses mairies rurales dont les cahiers sont appelés à une synthèse prochaine.
Ce matin à Bernaville, dans la Somme, ce couple de gilets jaunes a décidé de pousser la porte de la mairie. Même chose à Méricourt, petite commune des Yvelines de 400 habitants. Comme partout en France, à Rozoy, dans l'Yonne, Dominique Chapuis tient sa mairie ouverte.
On va se mettre à l'aise et on va exprimer les problèmes. Les gens ont l'impression d'être isolés, quoi, d'être bafoués. Et ça, non, c'est pas vrai. Et moi, je compte sur ces moments d'échange avec les habitants pour attraper des idées qu'on n'aura peut-être pas eues, parce que c'est ensemble qu'on peut faire les choses.
Je pense que ce mouvement, quelque part, il est émouvant, parce qu'il ramène à une solidarité entre les gens.
Climat 89 et climat 93. Alors, vous dites qu'il y a eu des guillotines approximatives montées sur les ronds-points. On a aussi des projets sur telle ou telle place de monter des urnes. Et dans ces urnes pourraient s'exprimer, à l'occasion de référendums d'initiative citoyenne, les électeurs, s'ils sont suffisamment nombreux, numériquement, je sais pas, 500 000, 700 000, 1 million, à réclamer des textes, par exemple des textes dérogatoires, comme l'avait imaginé le grand Condorcet.
Un soir, disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une république d'une forme unique. On porte aux cieux un héros tant qu'il est utile. On jouit de ses travaux, ensuite on l'exile. Cela n'est pas trop décent, mais c'est l'usage pourtant d'une d'une république bien démocratique.
Nous sommes avec Michel Biard, historien de la Révolution française. Nous approchons de 1793, avant que la Constitution, vous nous expliquerez ce que c'est que cette Constitution de juin 93 n'ait été promulguée. Condorcet, qui finira par connaître un sort malheureux, avait imaginé une sorte de référendum qui pouvait révoquer les lois votées par l'Assemblée.
Alors non seulement il l'avait imaginé, mais c'est repris dans la Constitution elle-même.
Mais qu'est-ce qu'il pensait Condorcet? Comment ça marchait?
Ce qui apparaît dans la Constitution et qui est lié à ce qu'il avait écrit, c'est que l'Assemblée pouvait faire des lois, des projets de loi, si l'on veut, qui étaient appelés lois provisoires. Et ensuite, il y avait un espace de temps de 40 jours pour que les assemblées primaires où se rassemblent les citoyens
réclament. Cantons, hein, on est
voilà,
plus autour des bailliages.
Ou pas. Et si, sous les 40 jours en question, 10% des assemblées primaires, mais réparties dans au moins la moitié des départements, contestaient, le projet de loi était à refaire, était abandonné et pouvait être annulé.
Il était soumis, ce texte qui allait être aboli, il était soumis au vote de tous les citoyens.
Exactement.
Après ce mécanisme de filtrage.
Et ça allait même beaucoup plus loin, puisqu'il était prévu qu'avec le même mécanisme de filtrage, il puisse y avoir une demande de révision de la Constitution, auquel cas, si ça l'emportait, il devait y avoir convocation d'une nouvelle Convention nationale, et donc de nouvelles élections.
Oui, alors, cet article fait partie de la Constitution de juin 1793, à laquelle se réfèrent toujours un certain nombre de politiques français. Je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon. Mais, sauf erreur, Michel Biard, cette Constitution promulguée n'a jamais été appliquée. Elle a été de suite suspendue. Et on regarde autrement les beautés qu'elle présenterait, quand on sait que quelques semaines avant qu'elle ne soit promulguée, les sans-culottes avaient envahi l'Assemblée et provoqué la déchéance des députés appelés Girondins, qui allaient se retrouver pour un bon nombre sous l'échafaud ou obligés de fuir et mourant dans des circonstances atroces. C'est ça quand même la Constitution de juin 93, elle est dans ce climat.
Alors en fait, l'exclusion de 29 députés girondins et non pas la déchéance de tous les députés girondins, et puis surtout ça n'empêche pas que le projet était déjà chez Condorcet avant. Donc je dirais que le fait que ça se retrouve dans la Constitution de 93 n'est pas lié pour le coup à cette histoire du coup de force du 2 juin 93.
Oui, mais vous êtes un grand spécialiste chez les sans-culottes, des enragés, des hébertistes. Vous avez même écrit des textes sur le père Duchesne.
Bien sûr.
D'Hébert. Tenez, on peut jouer au quiz sans-culottes.
Oui, oui, il suffirait de trouver un mot et de trouver
allez-y,
le sens.
Allez-y.
Que veut dire étouffer un enfant de cœur, par exemple?
Oui, alors.
Bah logiquement, si vous voulez étouffer un enfant de cœur dans la rue tout à l'heure, vous allez avoir quelques petits problèmes et peut-être des gilets bleus qui vont venir à votre rencontre. Autant du père Duchesne, ça veut dire tout simplement boire un verre.
Oui, oui, mais enfin ça c'est gentil. Mais foutre le père Duchesne, il était plus agressif.
Oui, un petit peu plus agressif en termes de vocabulaire et en termes politiques. Oui. Mais pour revenir à la Constitution de 93, elle n'a jamais été appliquée puisqu'effectivement elle a été suspendue le temps que la paix revienne. La paix au sens extérieur, hein, c'est-à-dire que la guerre s'arrête.
Oui, mais enfin, quand on déclenche la guerre, ça c'est pas la faute des Jacobins ni de Robespierre. On sait qu'il peut y avoir des conséquences terribles, et la guerre elle a été déclenchée en 1792. Mais on va pas s'appesantir. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de votre appréciation de cette idée dans le monde contemporain. Tout dépend du périmètre, dit prudemment le Premier ministre, qui considère ça comme, vous savez, un promeneur regarderait le cratère d'un volcan. Est-ce que ça peut se canaliser, l'éruption? Est-ce qu'on peut limiter le référendum d'initiative citoyenne à certains sujets qui seraient locaux, par exemple?
Oui. Alors, je crois que sur ces histoires de référendum, d'abord, d'autres pays le pratiquent. Bon, on cite toujours l'exemple de la Suisse. Hein. Il y a aussi des problèmes de seuil. À partir de combien de personnes on va demander au bas d'une pétition, par exemple, 500 000, 100 000, 1 million. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière, qui est tout simplement la différence entre entendre, écouter, et puis aller plus loin qu'écouter, c'est-à-dire résoudre les problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense, quelque époque que ce soit, et ça vaut pour aujourd'hui, qu'on peut très bien entendre sans écouter, et qu'on peut très bien faire mine d'écouter sans résoudre un problème derrière. Et je crois que la quadrature du cercle, elle est plutôt là que dans la forme technique de ce que va être ce référendum, quel que soit le nom qu'on lui donne. C'est-à-dire, est-ce qu'on va uniquement faire de la communication, puisque je crois que la politique aujourd'hui est devenue beaucoup de la communication, ou est-ce qu'on va aller plus loin que de la communication, c'est-à-dire à vraiment chercher à résoudre des problèmes avant qu'ils ne deviennent plus graves?
Mais il y a une sédimentation à partir du moment où il y a une constitution, des révisions, une jurisprudence. Il ne suffit pas de proposer un texte. Il faut que ce texte entre dans le cadre déjà formulé de la loi. D'où le filtre du Conseil d'État, d'où le filtre du Conseil constitutionnel, ce qui est impensable dans l'esprit sans culotte.
Bien entendu. Mais là, on est en train de mélanger deux époques qui ne sont pas comparables. Donc je crois que la notion de Conseil constitutionnel, là, pour 93, ne fonctionnerait pas. Mais en revanche, l'idée qu'on puisse, à travers une pétition, par exemple, demander quelque chose, est une idée qui existe encore en France, puisque le Conseil économique, social et environnemental, dont la plupart des Français, je pense, ignorent l'existence, peut être saisi par le gouvernement, peut-être saisi par le Parlement, et peut-être saisi par le biais d'une pétition, à condition, si ma mémoire ne me trahit pas, qu'elle soit signée par 500 000 personnes. Et je crois d'ailleurs que ce Conseil actuellement, qui est une sorte d'assemblée consultative, hein, à côté de l'Assemblée et du Sénat, je crois qu'actuellement ce Conseil est saisi de questions sur ce mouvement dit
Gilets jaunes. Bah oui, il a même suspendu tous ses travaux ordinaires pour se mettre à la disposition du pays et du gouvernement.
Et c'est intéressant parce que dans ce que vous dites, les travaux ordinaires renvoient à la notion d'extraordinaire. Et justement, le lien avec 93, c'est peut-être que nous serions dans une situation qui serait par nature extraordinaire.
Mais les référendums, pardonnez-moi de revenir sur l'actualité, d'initiative citoyenne pourraient proposer non seulement la révocation du président, mais, je sais pas, de bouter dehors les étrangers ou de décrocher l'abrogation de la peine de mort de la Constitution, tout aussi bien.
Potentiellement, un référendum peut effectivement être très dangereux. Nous sommes bien d'accord. Vous prenez l'exemple de la peine de mort. Il est évident que si on faisait un référendum sans avoir une campagne d'explication très très large avant, les résultats, à mon sens, aujourd'hui, seraient sans doute très incertains, malheureusement.
Merci à vous, Michel Biard. Je renvoie à vos travaux et puis à ce travail collectif chez Belin, quand Belin était encore une grande maison d'édition, le volume Histoire de la France 1789-1815, en attendant un autre travail collectif qui va bientôt voir le jour, Dictionnaire des conventionnels. Alors chez Mathieu Vidard, dans un instant, la charge mentale.